Moi, je prends le du mouvement au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai essayé de vous combattre au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, si le président trouvait une solution par rapport à ça.
Merci encore de votre fidélité à Radio Tapi, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs qui vous propose ce premier numéro de la semaine. Le Sénat a adopté en commission éco-finance le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Banque Centrale du Congo. Parmi les innovations apportées par ce nouveau projet de loi, on note que la gestion de cette institution sera désormais collégiale, c'est-à-dire élargie à d'autres partenaires économiques, notamment la FEC. La nomination du gouverneur de la Banque Centrale ne sera plus du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État seul. Et dans sa disposition transitoire, il est indiqué que les biens de la Banque Centrale ne peuvent pas faire l'objet d'une confiscation par les tierces pour question d'endettement. Comment réagissez-vous à cette thématique? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Lilifesa Bongonda est au standard et à la réalisation de cette émission. Mini Kindou est à la mise en onde de cette émission supervisée par Martin Sebujangwe et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne Grégoire Bakandeja qui est notre invité. Professeur Grégoire, vous êtes en ligne depuis Mali, à Bamako, où vous êtes allé, enseigner des étudiants à l'université de Bamako. Merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur, vous êtes en ligne. Voilà, professeur, vous êtes avec nous et vous avez suivi l'actualité, même depuis Mali, comme nous, que le Sénat venait d'adopter en commission écofine le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Banque Centrale. Et parmi les innovations, comme je l'ai dit tantôt, la gestion de cette institution sera désormais collégiale, c'est-à-dire élargie à d'autres partenaires économiques, notamment la FEC. La nomination du gouverneur de la Banque Centrale ne sera plus du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État seul. Et dans sa disposition transitoire, il est indiqué que le bien de la Banque Centrale ne peuvent pas faire l'objet d'une confiscation par les tiers pour question d'endettement. Alors, d'abord, d'entrée de jeu, comment vous réagissez par rapport à ces innovations?
Bon, mais je crois que en termes d'innovation,
Voilà, professeur, je crois que si vous pouvez peut-être dynamiser votre voix, parce que là, vous sortez vraiment très bas et on a difficile à vous suivre correctement.
Alors, je disais, vous m'entendez maintenant?
Oui, 5 sur 5.
Bon, je disais que, en termes d'innovation, je ne pense pas qu'il s'agisse là d'une innovation, les innovations sont justifiées par les évolutions. Vous savez que la profession bancaire a beaucoup évolué et toutes les banques centrales, quelles que soient les petites, doivent s'adapter au nouveau contexte de la banque d'intégration. Et concernant les innovations qui sont soulignées, notamment en ce qui concerne la collégialité qui est recherchée, je voudrais tout simplement dire que la réforme de 2002 se situait déjà dans le prolongement de la restructuration de la Banque Centrale entreprise en 1998, qui prévoyait déjà, parmi les organes, un conseil d'administration et un comité de direction de la banque. Alors, lorsqu'on parle de la collégialité, on confond collégialité et partage équitable de pouvoir de nomination entre le président et le gouvernement ou les autres institutions. Il faut seulement parce que dans toutes les centres dont les banques appliquent la politique monétaire qui fait partie des politiques publiques. Et ces politiques publiques sont généralement définies par des élus, c'est-à-dire présidence de fonction, quel que soit le suffrage qui a été le suffrage universel direct ou le suffrage universel indirect, mais c'est la politique président qui doit être appliquée au niveau monétaire par la Banque centrale. Donc on ne peut pas dire que le fait de pousser à une conciliation des points de vue entre le gouvernement et le chef de l'État constitue une difficulté. Moi, je ne pense pas que ce soit le fonctionnement normal du Banque centrale implique que le numéro 1 soit formé par le chef de l'État. Quels sont les exemples des pays comme aux États-Unis, le gouverneur de la réserve fédérale est nommé par le président des États-Unis, mais il est nommé sur la base de certains critériums. On ne nomme pas n'importe qui au niveau des banques. Généralement, c'est dans le comité de direction qu'on choisit des experts parmi les directeurs qui succèdent selon les mandats au gouverneur qui est en fonction.
Alors, nous référons à l'ordonnance présidentielle de 2002, fixant les attributions des militaires. On note que le ministère des Finances a comme mission de d'avoir la charge donc de la politique monétaire du pays et aussi la charge de faire le suivi de la gestion de la Banque centrale du Congo et particulièrement la situation du compte général du Trésor public. Et au-delà de cela, on a ajouté au ministère des Finances l'attribution selon laquelle il doit assurer aussi l'ordonnancement des dépenses de l'État. Est-ce que par rapport à cette proposition, ces projets de loi, est-ce qu'on n'est pas là en train de restreindre un peu les attributions du ministère des Finances?
Oui, monsieur, je comprends que je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. Je dis tout simplement que, en fait, tout dépend des missions qui sont dévolues à une banque centrale. La banque centrale, c'est une mission classique. Vous savez, la mission classique, c'est en matière des prix. Elle a assuré le niveau général des prix, et puis il a assuré la stabilité financière. Donc la politique qui est menée par la banque doit s'inscrire dans la politique financière globale. Donc la stabilité financière, la stabilité financière est définie par le ministère des Finances en fait. Donc c'est en synergie que les deux, l'institution banque centrale travaille avec le gouvernement, par le biais du ministère des Finances. Parce qu'en fait, la Banque centrale agit par délégation, suivant l'histoire de chaque pays. Vous savez que la Banque centrale, son histoire, s'il faut rentrer dans l'histoire, vous allez bien voir que sa constitution part de l'époque de Léopold II, qui a créé la Banque de Belge, jusqu'à aux conventions intervenues, notamment en 1960, au moment de la question de l'indépendance, et puis finalement, avec l'implication du Conseil monétaire sur la recommandation de la Banque du Fonds monétaire international, qui font qu'aujourd'hui, au Congo, avec les missions qui ont été dévolues à la Banque, à un certain moment, a joué le rôle de l'initiaire vice des finances, à partir du moment où il y avait certains paiements de l'État qui étaient exécuté directement par la Banque centrale. Mmh. Mais les choses ont tellement évolué avec les réformes qui ont été entreprises, il faut qu'il y ait une collaboration, et la Banque même est devenue une institution de droit public, mais qui a une indépendance vis-à-vis du gouvernement.
Voilà, est-ce que vous en tant qu'auteur de la réforme de 1998-99, du système financier de la RDC, est-ce que vous pouvez nous confirmer, comme le pensent certains auditeurs ou certains observateurs, que parler aujourd'hui de la réforme de la Banque centrale, c'est là sous-entend la réforme dans tout son ensemble du système financier de la RDC?
Oui, en fait, la réforme qui est entreprise, elle se situe dans le prolongement de ce qui a été fait en 1998 sur la restructuration de la Banque centrale. Donc, en fait, quand on a restructuré la Banque centrale, il fallait diminuer ses charges, parce qu'il y avait des charges beaucoup plus importantes. Ensuite, il fallait organiser la gestion au niveau du comité de direction. Et c'est dans ce moment-là qu'on avait prévu que le gouverneur soit choisi parmi les directeurs, donc c'est-à-dire les techniciens de la banque, mais ces techniciens devaient être choisis sur la base d'un certain nombre de critères, notamment la compétence, l'ancienneté, l'expertise. Et c'est parmi les directeurs qu'on choisissait celui qui pouvait remplacer après la fin de mandat de celui qui est en fonction pour assurer une certaine durabilité dans la mise en œuvre de la politique de l'État d'une manière générale. Voilà ce qui a été fait.
Alors,
et en 2002, la réforme de 2002 a eu à faire un certain nombre de reculs parce que en 2002, on avait finalement supprimé la direction collégiale de banque, puisque le gouverneur devenait en même temps président du conseil d'administration et gouverneur de la Banque centrale, donc il assumait les deux fonctions. Alors, il y a ce qui arrive, c'est effectivement, dans le cadre de la souplesse, mais ça ne doit pas être l'occasion d'aller introduire des politiques dans la
gestion.
Le métier de banquier, c'est un métier de professionnel.
Voilà, alors professeur, nous vous gardons en ligne et nous signalons que vous intervenez depuis Mali, à Bamako, là où vous avez la charge horaire hein, pour enseigner les étudiants. Nous allons écouter quelques auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat, tout en rappelant qu'ils peuvent, les autres aussi peuvent entrer en contact avec notre équipe de production au 081-890-7315.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour et bienvenue dans cette émission.
Merci, J.R. Merci pour m'avoir associé à cet échange. J'ai choisi des professeurs.
Alors, Sylvain, vous venez d'écouter le professeur Grégoire Bakandeja qui intervenait depuis Bamako, au Mali. Voilà, alors, quelle est votre réaction par rapport à ces innovations qui ont été annoncées par la commission ECOFIN du Sénat, qui a examiné de fond à comble le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la banque. Et parmi les innovations, pour vous faire une idée très claire, on note que la gestion de cette institution sera désormais collégiale, c'est-à-dire élargie à d'autres partenaires économiques, notamment la FEC. La nomination du gouverneur de la banque ne sera plus du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État seul. Et dans sa disposition transitoire, il est indiqué que les biens de la banque ne peuvent pas faire l'objet d'une confiscation par l'État pour question d'endettement. Quelle est votre réaction?
Oui, en fait, disons que quand Mme Julie César m'a appelé pour passer à cette émission, j'ai réalisé que c'était une opportunité pour moi de pouvoir donner mon point de vue sur le fonctionnement actuel de la Banque centrale, puisque comme vous l'avez posé la question et comme le professeur Grégoire l'a rappelé, c'est que lorsqu'on parle de la réforme de la Banque centrale, il faut effectivement faire allusion à la réforme de la politique tant monétaire que financière de la RDC. Ça, c'est un élément très important qu'il faut souligner, puisque au regard de l'article 176 de notre Constitution, vous remarquerez que il y a au moins 5 missions essentielles qui ont été assignées à la Banque centrale. Et parmi ces 5 missions, il y a la garde des fonds publics de l'État, c'est-à-dire la Banque centrale comme fessier de l'État congolais. Il y a aussi la sauvegarde et la stabilité monétaire. Peut-être je voudrais te m'arrêter là. Les auditeurs qui m'écoutent peuvent tout simplement faire appel à leur constitution qu'ils ont à la maison pour lire l'article 4.6. Mais je voudrais m'arrêter, moi, à la deuxième mission, la sauvegarde et la stabilité monétaire. Alors, vous voyez que déjà la Conseil elle-même essaye de donner des missions claires à la Banque centrale. Maintenant, lorsque vous allez dans la lumière du même article, on dit que si dans la réalisation de ces missions et attributions, la Banque centrale est indépendante et jouit de l'autonomie de gestion. C'est ce que dit l'article 76 de notre concession. Alors, lorsque maintenant nous revenons dans la loi citée votée par notre Sénat, et vous notez là qu'une innovation par exemple à l'ambition du gouverneur qui jadis se faisait par le pouvoir du scolaire du chef de l'État, et aussi la gestion qui était pratiquement affaissée des principes du ministère des Finances et consorts, mais aussi le troisième élément important que c'est un autre tel que vous le dites, c'est que les biens de la Banque centrale n'étaient pas très compliqués, même s'ils avaient que sont des biens sous consorts. Bon. Moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent que la Banque centrale, en tant que question de l'État congolais, est un bien public. En tant que bien public, la Banque centrale, si nous pouvons la considérer comme, si nous pouvons la considérer comme un bien, est un bien de l'État. Et je ne pense pas quand est-ce que ce bien de l'État peut être confisqué. Je voudrais peut-être ici, ne pas insister sur la nomination du gouvernement, puisque pour moi, c'est un élément qui n'est pas trop important par rapport peut-être au deuxième élément qui est important, c'est-à-dire la gestion collégiale. Puisque la gestion collégiale, c'est allusion au management accessible. La gestion qui est à ce que tout ce qui concourt à la santé politique du monde, à la santé monétaire de l'État, puisse donner leur point de vue. Et c'est ça l'élément essentiel. Monsieur Germain, je pense que dans cette réforme, si on ne peut pas aller très loin, le professeur Grégoire a parlé de la réforme de 2002, qui pour moi était aussi très capitale. Aujourd'hui, nous migrons vers une gestion des banques centrales comme cela se passe ailleurs. Aujourd'hui, je vais prendre le cas de cette loi, les comparer à d'autres pays qui avaient déjà compris qu'il ne fallait pas laisser la gestion de la banque centrale centrée sur un pays. Et aujourd'hui, moi, je ne peux pas. Lorsque nous entrons dans l'élément que vous avez posé comme question, la réforme de la Banque centrale a créé la réforme de la
du système financier.
Puisque si, je prends l'exemple seulement de la PEC, si la PEC attaque actrice principale de l'économie de notre pays, ce sont concernés par la gestion de la Banque centrale, si vous avez compris, selon l'article 76 de notre constitution, reste la chef de l'État congolais, c'est-à-dire qu'elle gère les finances publiques de l'État congolais, en termes de monnaie et consorts, et des titres, et tout ça. Donc, la PEC doit pouvoir travailler pour lui que la Banque centrale soit toujours stable. Or, jusqu'à présent, la Banque centrale a été gérée comme un bien privé. Et c'est là qui a créé beaucoup de problèmes. Donc, pour remettre la confiance de la population et surtout des acteurs d'économie, je parle bien des opérateurs économiques et financiers, et congolais même du monde entier, il fallait qu'on puisse tout simplement faire entrer les points de vue, c'est-à-dire prendre en compte les points de vue de ceux qui contribuent pour que les trésors de l'État aient de l'argent pour la Banque centrale. Et donc, moi, je pense que c'est ici le bâtiment essentiel. Mais je voudrais terminer en disant ceci, par rapport à la nomination du gouvernement. Mais si les gens, vous devez comprendre que les problèmes dans nos institutions ou soit dans nos entreprises ne se posent qu'au niveau de la nomination. Moi, les problèmes qui se posent, il faut savoir qui veut faire quoi à la Banque centrale. Dans des pays développés, avant de gérer une structure, il faut des préalables. Quel est ce Congolais qui a déjà énoncé certaines idées claires sur une gouvernance responsable des banques? Je pense que c'est des travaux qui vont, ce qui serait important, c'est d'indiquer clairement qui est une spécialité bien connue pour que l'on puisse prétendre gérer un jeu de la Banque centrale. Puisque jusqu'à présent, comme vous le savez, je termine par là peut-être,
oui, rapidement,
la nomination
que...
a été politique, la nomination a été politique, et ça n'a pas permis que la banque rapide correctement cette
position
qui relevait à l'article
76. Par l'article 76. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir évoqué l'article 76 de la Constitution qui dispose au fait de 5 missions assignées à la Banque centrale. Et vous vous êtes attelé sur le 2 points, notamment les fonds, la garde des fonds publics de l'État et la sauvegarde de la stabilité monétaire. Et là, vous avez retenu qu'effectivement, aujourd'hui, aujourd'hui, et il est impérieux et voire même nécessaire de pouvoir aller ou tendre vers la gestion collégiale pour préserver la santé monétaire de notre pays et aussi sortir de la Banque centrale qui évolue comme un bien privé. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé les boules. Ingénieur Valérie, vous êtes à Kindou, bonjour et bienvenue.
Bonjour, Gérard Lungembo. Bien, je suis avec attention le professeur Grégoire ainsi que Sylvain de Bouna. Je le salue tout en passant. Je voudrais ajouter le fait que c'est tout à fait une bonne chose. D'abord, lorsqu'il y a une telle réforme, l'émission Parole aux auditeurs aussi s'en féliciter. Parce que je me rappelle qu'au cours d'une émission que nous avons eue, Parole aux auditeurs concernant la Troïka stratégique, j'avais eu le plaisir de proposer que je ne trouvais pas bon que les mesures économiques se prennent sans pour autant qu'on y associe même les institutions telles que la FEC, la NAPI et bien d'autres. Donc je ne peux que m'en réjouir. Toutefois, cette réjouissance est partielle, étant donné que nous sommes habitués à élaborer des textes, mais jamais nous n'arriverons à bien les pratiquer. Ok, aujourd'hui on nous dit bien que le gouverneur de la Banque centrale ne doit pas être désigné par le chef de l'État, ainsi de suite. C'est une bonne chose. Mais je voudrais qu'on insiste, ce n'est pas parce qu'on a ouvert la brèche que même quelqu'un qui sort de n'importe où peut devenir gouverneur de la Banque centrale. J'aurais préféré que le gouverneur de la Banque centrale provienne essentiellement du directeur de la Banque centrale. Parce que les opérations bancaires, on ne peut pas les maîtriser en un jour, on ne peut pas parachuter quelqu'un qui vient, soit de l'université ou de la FEC ou de la NAPI, on le précipite comme gouverneur. Égard au caractère crucial de la mission que joue la Banque centrale, je préfère que pour des raisons de technicité, que le gouverneur, bien qu'il ne sera pas élu, choisi par le chef de l'État, qu'il provienne au moins des techniciens de la Banque centrale. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, je ne sais pas si la Commission économique et financière avait associé lors de son élaboration des projets avec la NAPI, l'ACD, je voudrais, sans savoir quels sont l'ensemble des institutions qui y sont associées, mais je préfère qu'on y retrouve aussi la NAPI. Pourquoi ? Parce que la NAPI, en s'intéressant aux investissements, on sera obligé de convertir l'épargne en investissement. Ce genre d'éléments exige que lorsqu'on prend des décisions au niveau de l'épargne, si ça a un impact sur l'investissement, que la NAPI aussi puisse jouer les contre-pouvoirs. Il y a l'ACD qui est l'Association Congolaise des Banques. Je préfère qu'elle soit aussi associée. Pourquoi ? Parce que la gestion d'une banque centrale et celle d'une banque commerciale diffère en plusieurs points. Par exemple, la banque centrale est chargée de la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire, tandis que les banques commerciales, elles, sont dans la politique financière, c'est-à-dire elles prennent leurs décisions en tenant compte des risques, des rentabilités ainsi que de la croissance. Alors, les mesures de la politique, l'expérience de la Banque centrale peut faire que la Banque centrale puisse éviter une mesure dont les effets pervers seront sentis par les banques commerciales. Alors, que si la CD est associée, je pourrais aussi dire non, voilà, dans ce cas, je crois que si nous y allons, ça sera tout à fait compliqué. Étant donné que mon ami Sylvain de Gounia a déjà abordé l'alinéa 2 et l'alinéa 3, et disons l'alinéa 1 et 2 de l'article 176 de la Constitution, portant attribution de la Banque centrale, je préfère, moi, insister sur l'alinéa 3, qui est la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire. Comme ça, nous allons avancer parce que chacun doit aussi lutter en temps chose.
Voilà, alors, je vous garde un peu en ligne le temps d'accueillir Maître Trésor. Restez en ligne, comme ça, vous allez, donner votre contribution par rapport à cet alinéa 3. Maître Trésor, vous nous avez rejoint, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour JR, bonjour au professeur Grégoire Bakandeja depuis Bamako.
Alors, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, à ce niveau du débat, je voudrais m'attirer sur ce qu'on appelle innovation. Je ne vois là aucune innovation parce que, un, on dit que la gestion de la Banque centrale devient collégiale, que le président de la République ne va plus nommer le gouverneur de la Banque centrale. C'est pas ce qu'on qualifie d'innovation. Étant donné que le pouvoir exécutif est composé des institutions président de la République et du gouvernement. Si auparavant c'était le président de la République si agissait-elle en vertu de son pouvoir discrétionnaire, bien sûr. Aujourd'hui, on l'associe au gouvernement. Je ne vois pas une innovation, plutôt à ce que je comprends. On veut simplement créer une brèche, ouvrir une brèche pour satisfaire à la demande de certains partis politiques en Côte d'Ivoire, c'est là qui ont participé au récent dialogue, peut-être pour remercier.
Alors, Maître Trésor, vous êtes juriste, quel est l'impact que cela a pu avoir dans les systèmes financiers dont je parle, de la réforme de la Banque Centrale? Aura-t-elle un impact sur les systèmes financiers généraux de la République?
Bon, j'observe déjà un petit désordre qui s'installe. Le professeur Bakandeja a rappelé que le gouverneur devait sortir des
collèges de directeurs.
Parmi les experts qui ont fait preuve de l'expertise, la maîtrise dans le fonctionnement de la Banque Centrale, parmi eux, on devait choisir un gouverneur. Mais aujourd'hui, on veut bouleverser la situation et nous devons quand même changer notre façon de voir les choses. Il y a des postes où on ne sait pas toujours associer les politiques. Comme la Banque Centrale, c'est vraiment un service technique. On doit, bon, si on pourrait parler de l'innovation, on devrait peut-être concevoir une sorte de concours de tests. Hein?
Voilà, merci beaucoup, Maître Trésor. On va évoluer, on va dire à vous, professeur Grégoire Bakandeja, vous êtes au Mali, là où vous enseignez à l'université de Bamako. Merci de nous avoir accordé ce temps pour échanger de manière un peu citoyenne avec les auditeurs. Vous êtes avec nous, vous avez suivi Sylvain Deboudia, Génère Valérie et aussi Maître Trésor. Et tous, en tout cas, ont évoqué cet article 136 qui donne une mission, qui définit donc les 5 missions attribuées à la Banque Centrale. Quelle est votre réaction lorsque les uns et les autres considèrent que aujourd'hui la Banque Centrale fonctionne comme un bien privé, d'où la nécessité de pouvoir amorcer cette réforme?
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui pense que la Banque Centrale est gérée de cette façon. Donc, il faut partir de tête. Il y a la loi 2002 qui organise le fonctionnement de la Banque Centrale. Je ne pense pas que ça soit géré comme un bien privé. La Banque est une institution de droit. Elle a des missions bien précises. Il y a le conducteur Sylvain qui a rappelé ces missions. Vous savez, une institution, c'est la Banque des banques, c'est le contrôle du système bancaire, c'est le péché de l'État, puisque l'accès est l'équipement de l'État, en assurant notamment des séries de dettes, accepter effectivement pour le compte de l'État, conseiller de l'État pour émettre des avis, tout ça, c'est là où même relève son indépendance. Et elle gère les réserves. Et ça, tout ceci n'a rien de politique. C'est technique. C'est technique. C'est une banque centrale. C'est l'institution que les systèmes financiers dans tout ça ont été. Je crois que les missions là ont été exercées, bon, en tenant compte de ce qui concerne, quand on doit faire une réforme monétaire ou une réforme bancaire, on le fait pour une période qui n'est pas suspecte. Lorsqu'on arrive à la fin d'une législature, ou bien lorsqu'il y a un gouvernement qui est en gestation, tout le monde voudrait bien aller gérer la banque, avec toutes les conséquences que vous connaissez. C'est une histoire, c'est professionnel. Je comprends les préoccupations des auditeurs, notamment notre ami Tard de la Ligne 3, en ce qui concerne l'État et l'investissement, voilà, je suis là. Il y a des choses qu'il faut éviter de confondre. Quand on voit historiquement comment la banque centrale du Congo a été créée, elle a été créée par le roi de Belge, c'était pour, premièrement, mettre fin à l'unifier d'abord sur le système de paiement qu'il avait, mais il y avait un objectif, c'était de garantir les investissements réalisés par beaucoup d'étrangers qui opéraient à l'époque. Et ensuite, on a évolué jusqu'à avoir, vers les années 1950, une banque centrale du Congo
belge et du Rwanda aujourd'hui, parce qu'il fallait intégrer les états majeurs, et la construction même de ce capital, qui était la banque, comme on l'a dit, était assez révélatrice de la complexité du mécanisme. Parce que vous aviez 50% qui revenaient à la commune du Congo belge, vous avez 10% au Rwanda ou Burundi, il y avait 20% pour les investisseurs, c'est-à-dire tous ceux qui avaient fait les risques qui avaient au Congo, et puis vous aviez 20% pour la couronne belge.
Mmh.
Donc vous voyez, c'est depuis qu'on a associé les privés dans la gestion pour garantir les investissements. Et qu'on doit revenir à cette situation en 2016. Plus de 50 ans après la création de la Banque centrale, on va régler la situation. Vous voyez la difficulté que nous avons au Congo d'avoir une banque qui fonctionne normalement comme une banque, parce qu'elle a des difficultés liées au fait que la masse monétaire se doit contrôler, contrôler des unités de compte. Il y a, nous n'avons pas plusieurs monnaies qui. Congo.
Oui, est-ce que le professeur...
Toutes les réformes qui ont été entreprises pour... Oui, je disais, pourquoi toutes les réformes qui ont été entreprises pour bancariser toutes les opérations et faire circuler localement rien que la monnaie nationale n'ont pas réussi. C'est parce qu'il y a eu beaucoup d'ingérences, notamment des privés. Donc il faut, dans cette situation complexe, savoir quelle mission il faut donner à une institution clé comme la Banque centrale du Congo, et laisser cette affaire aux techniciens qui doivent travailler pour les politiques et non pas laisser ça aux politiques qui commencent à gérer une banque centrale ou à gouverner. C'est pas une chose donnée à tout le monde, c'est une affaire des professionnels.
Voilà, alors professeur, il y a une question de curiosité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons reçu des messages sur notre page Facebook, bon nombre d'auditeurs insistent pour dire, mais voilà, au lieu de penser simplement à la réforme de la Banque centrale, c'est l'occasion de faire aussi l'état des lieux de notre monnaie. Pourquoi pas, parce que bientôt, ça fera, si mes calculs sont bons, 20 ans depuis que nous avons notre monnaie, les francs congolais. Alors, pourquoi ne pas évaluer un peu le cours normal de cette monnaie, quels sont les effets que cela a produit sur le terrain?
Oui, mais c'est pour dire que ça fait raison. Avant de penser à restructurer la banque, il faut regarder d'abord les missions. Quelle était la mission? Assurer la sécurité de la monnaie nationale, sa stabilité vis-à-vis de l'extérieur. Et il faut. Après, une grande chose, pourquoi je parlais tout à l'heure de l'inscription dans la gestion de la banque de privée qui empêche que la banque puisse trouver pleinement les missions qui sont devenues par le législateur. Il faut procéder à une évaluation. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été entreprises. Par exemple, vous voyez le fait de bancariser les opérations bancaires, ça n'a pas tellement réussi parce que les gens sont habitués à utiliser des instruments traditionnels. Or, la technique bancaire a évolué. Elle est devenue beaucoup plus complexe. Il y a les messageries financières qui ont été introduites. Toutes ces évolutions font
que on ne peut
plus utiliser les moyens classiques. Donc, l'auditeur a tout à fait raison, au lieu de penser à cette restructuration, à cette réforme qui est simplement à remplacer les exigés actuellement par d'autres, il faut penser dans la durée et concevoir quelque chose de choses.
Voilà, on va évoluer avec les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat, professeur. On va écouter, si vous le permettez. Nous rappelons d'ailleurs à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que nous sommes avec vous, hein, en tout cas en ligne, en direct du Mali, à Bamako, où vous assurez le charge horaire en tant que professeur visiteur. Et puis bon, on va ouvrir encore les standards avec les auditeurs qui nous ont rejoints. Il y a Dieu merci qui est à Manono. Dieu merci, vous êtes avec nous.
Avec vous, bonjour.
Oui, Dieu merci, vous nous avez rejoints à ce niveau du débat. Quelle est votre contribution à cet échange citoyen?
Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Ma contribution ne suffit pas seulement de retirer au chef de l'État le mandat de nommer le gouverneur de banque, mais aussi d'assurer l'indépendance du gouverneur de banque. Parfois, on constate dans beaucoup de nos pays vous trouvez un gouverneur de banque qui n'est pas indépendant. Il ne sait pas bien gouverner les opérations bancaires. C'est parfois la politique qui vraiment qui décide à la place du gouverneur de banque. Qu'est-ce qu'il fera comme travail? Et voilà, le travail qui a été fait est acceptable, mais ce qui reste aussi, c'est cette indépendance du gouverneur de banque. Si le gouverneur de banque n'est pas indépendant, là, il pourra toujours faillir à sa mission, monsieur le journaliste.
Voilà, merci beaucoup, Dieu merci. Alors, ingénieur Valérie, l'indépendance, l'autonomie et dans la gestion, c'est ce qui pose problème. Comme l'a dit Dieu merci, est-ce que vous partagez cet avis? Ingénieur Valérie, vous êtes à Kindou.
Oui, en partie, oui. Comme je l'avais dit autrefois, il faudrait une certaine indépendance. Ça nous permettra aussi de bien juger la Banque centrale, parce que si, par exemple, elle voulait bien travailler avec eux, et pendant cela, l'un fait à côté, qui allons-nous condamner? Est-ce la Banque centrale ou bien ceux qui lui ont donné des injonctions? La raison pour laquelle l'indépendance est une bonne chose, mais comme je le disais, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Alors, tout de suite là, je voudrais poursuivre pour vous parler de l'alinéa 3 et 4, que je vais combiner en un seul. L'alinéa 3 dit que la Banque centrale a aussi pour mission la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire, tandis que l'alinéa 4 parle du contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire. Alors, qu'est-ce que nous entendons par politique monétaire? La politique monétaire relève de la politique économique, qui elle-même n'est qu'une forme de la régulation économique, c'est-à-dire au cours d'une activité économique, il peut y avoir des dérapages. Pour rendre l'activité dans des limites du sujet acceptable, on appelle cette opération la régulation économique. Si maintenant la régulation économique est assurée par l'autorité ayant le pouvoir de le faire au nom de la nation, nous appelons cette autorité l'autorité monétaire, et la politique là, maintenant, elle est l'autorité politique monétaire, qui est, disons, une politique économique d'abord. Et la politique, dans la politique économique, nous trouvons qu'on peut s'appuyer soit sur la politique monétaire, soit sur la politique budgétaire comme moyen, alors que par rapport aux objectifs, nous pouvons parler de la politique conjoncturelle ou de la politique de développement. Alors, pourquoi cette mission est tout à fait délicate, que je la juge? C'est au regard de la plupart des banques commerciales qui sont tombées en faillite, au point de perdre même la crédibilité du secteur bancaire, les investissements et bien d'autres. Tout. Nous devons savoir que à cette politique monétaire, la Banque centrale joue un très grand rôle parce que, 1, la Banque centrale définit les taux d'intérêt, 2, les taux d'escompte, les taux de rescompte, 3, les coefficients de réserves obligatoires en matière de crédit, ainsi de suite. Alors, maintenant, nous devons savoir que la Banque centrale, puisque touche à tout cela, c'est bien que l'Afrique et pardon, que l'Association congolaise des banques y soient associées. Parce que dans la politique monétaire, nous y trouvons la politique de crédit et la politique d'échange. Alors, il faudrait que toutes ces deux opérations-là, puisque leurs répercussions vont sur les banques centrales, et les banques commerciales, pardon, que les banques centrales y soient associées et que les décisions se prennent aussi collégialement. C'est la raison pour laquelle je dis que la nomination d'un gouverneur est une bonne chose. D'abord, j'ai insisté, comme les autres, les propres devoirs, que le gouverneur ne provienne pas de n'importe quelle catégorie socio-professionnelle. Pour moi, il doit être nécessairement un ancien directeur de la Banque centrale ou un directeur en fonction. Deuxièmement, que ces deux organes soient associés pour la prise de décisions pragmatiques. Parce que nous avons compris que la plupart des décisions...
Voilà, ingénieur Valérie, nous vous gardons. On est temps peut-être d'accueillir Maître Jean-Paul qui est à Mbandaka. Par rapport à votre proposition, Maître Jean-Paul, vous êtes avec nous en Mbandaka.
Oui, bonjour, Gilles, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Alors, ingénieur Valérie parlait tout à l'heure pour lui, il a salué cette décision de vouloir amener la gestion de la Banque centrale, qu'elle soit un peu collégiale, c'est-à-dire élargie à d'autres partenaires économiques, notamment à l'APEC. Et lui, il a ajouté la CB et la NAPI. Est-ce que vous partagez cet avis? Vous partagez ce plaidoyer?
D'entrée de jeu, moi également, je salue avec fermeté l'ingéniosité de ce projet de loi, si jamais elle ne tombait pas des études comme d'habitude. Je crois que la gestion de manière collégiale, collective, ça sera bien, d'autant plus que aujourd'hui nous constatons. Si vous regardez les missions qui sont conviées à la Banque centrale du Congo, vous trouverez que la Banque centrale, c'est un établissement public stratégique par entière. Et lorsque le chef de l'État, par exemple, il trouve, par exemple, c'est lui qui est sorti de sa contrée, il va le nommer là jusqu'au niveau où même on va oublier même qu'il existe un établissement public stratégique. Ça devient comme un lieu familial. Non, moi également d'ailleurs j'avais la même suggestion que l'ingénieur Valérie. Moi-même au niveau de la fête, il faut regarder les endroits stratégiques. Et on doit instaurer le système d'élection. Ça sera la meilleure des choses et de nommer un gouverneur de la Banque centrale durant peut-être 20 ans, 50 ans. On ne sait pas jusqu'à quand, même s'il commettait et des bavures, tout ce qu'il fait, et le fait qu'il a la confiance du chef, à ce moment-là, ça ne pose pas de problème. Moi également, je salue cette décision, ce projet de loi.
Voilà, merci beaucoup. Alors, la petite question, peut-être de rappeler que le débat se poursuit d'ailleurs au niveau du Parlement. D'ici à mercredi, il y aura également le débat autour des amendements des uns des autres et l'option sera levée définitivement et on aura le projet qui sera soumis pour la grande plénière. Voilà, tant pour nous aussi, à notre manière de pouvoir proposer et aussi émettre quelques points de vue. Et comme j'ai posé tout à l'heure la question à Valérie, vous êtes encore en ligne?
Tout à fait, oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous partagez, j'ai posé tout à l'heure la question au professeur Bacal déjà, est-ce possible que, comme l'ont proposé certains auditeurs, qu'au lieu de penser à la réforme d'abord de la Banque centrale, il va falloir qu'on mette beaucoup plus l'accent sur l'évaluation de plusieurs réformes qui ont été déjà amorcées et pourquoi pas évaluer les effets produits par aujourd'hui la monnaie nationale, hein, en d'autres termes la sécurité monétaire nationale.
Oui, mais moi je crois que tout le monde parle un même langage, dire qu'on doit évaluer les réformes passées et que l'on et dit aussi que on doit faire d'autres nouvelles réformes. Moi je crois que c'est la même chose, c'est-à-dire on doit initier une nouvelle réforme qui tient compte des erreurs des réformes antérieures. Là au moins je crois que sous ce point de vue nous allons parler donc un même langage. Oui, parler de la sécurité monétaire, c'est tout à fait important. Vous savez, tout en n'étant pas économiste, mais à travers la passion que j'ai vis-à-vis de l'économie monétaire, nous devons aussi reconnaître que nous n'avons pas une monnaie. Hein. Le franc congolais n'est pas vraiment une monnaie au sens économique du terme. S'il faudrait voir les propriétés de la monnaie, les trois que je citerai, la liquidité, la convertibilité, la stabilité. Par liquidité, au niveau de l'économie bancaire, on voit cette capacité-là, donc les enquêtes, cette capacité d'encrypter la monnaie, les transactions par exemple. Mais aujourd'hui, nous faisons des transactions en dollars. Donc, c'est une façon de reconnaître que la monnaie même n'est pas apte aux transactions. La convertibilité. Est-ce que nous pouvons échanger notre monnaie avec la monnaie de notre pays? Pratiquement non. Donc, nous avons tout l'intérêt à mettre à profit en sorte que la Banque centrale nous fasse d'abord, à travers l'indépendance que nous recherchons par elle, qu'elle nous fasse acquérir une monnaie digne de ce nom. Imaginez-vous, par exemple, en 1993, on a connu une réforme monétaire sans sous-multiple qui nous a conduit à une inflation à quatre chiffres. Mais ce n'est pas quand même normal. Donc, vous comprenez que la monnaie, c'est quelque chose qui doit être bien surveillé et la raison pour laquelle j'insiste, c'est aux techniciens de la monnaie de toucher à la monnaie, pas en prenant les gens du dehors, non. Mais, quant à la collégialité, oui. Pourquoi? Parce que les décisions que la Banque centrale aura à prendre sont des décisions qui ont des répercussions sur un bon ensemble d'activités dans le pays. Et qui touchent aussi à la vie quotidienne du Congolais. C'est pourquoi je soutiens cette hypothèse.
Voilà. Alors, on revient à vous, professeur Bacandeja. Vous êtes encore avec nous en ligne. On sait qu'il y a quand même une longue distance hein, entre Kinshasa et Bamako.
Et je suis bien en ligne. Oui.
Alors, vous avez suivi les uns les autres. Comment réagissez-vous par rapport aux appréhensions, aux idées avancées par les uns et les autres?
Et les idées sont très, très importantes. Vous savez, les auditeurs, je suis bien.
Voilà, on a encore des petits soucis avec votre ligne, professeur. Je sais que on est trahi par la distance. Ben alors, si vous pouvez redynamiser encore votre voix, ça pourrait quand même aider les uns les autres à bien beaucoup vous écouter.
Ok, je disais tout à l'heure que les réformes sont toujours nécessaires dans une économie parce qu'elles doivent être adaptées aux évolutions. Et en matière bancaire, il y a eu beaucoup d'évolutions. Le fait, par exemple, que les banques centrales au niveau de l'Afrique doivent s'intégrer dans la mondialisation économique et financière justifie qu'il y ait des réajustements au niveau des banques centrales. Et le fait de penser à une réforme, c'est déjà une bonne idée. Et je disais tout à l'heure qu'on ne doit pas le faire dans la précipitation. Et les réformes, c'est pas souvent le fort des parlementaires qui charcutent généralement tout ce qui a été prévu par les techniciens. Les réformes doivent être laissées aux professionnels. Le métier de banquier, surtout d'un banquier au niveau d'une banque centrale, mais c'est une affaire de professionnel. On ne doit pas mettre la politique là-dedans. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que non seulement on doit procéder à l'évaluation de toutes ces réformes qui ont été entreprises, il y a des réformes qui n'ont pas marché, il y a des réformes qui ont réussi, pour voir ce qu'il y a de bon à tirer de ces réformes. Et le dernier auditeur qui a parlé de la stabilité de la monnaie, une monnaie qui a cours légal, parce que le Congo, il y a plusieurs monnaies qui ont cours légal. En dehors du franc congolais, qui est la monnaie en cours légal, il y a d'autres monnaies qui sont en circulation, et cela complique un peu la situation. Donc il faut régler le problème de la convertibilité, éviter de continuer dans la dollarisation de l'économie. Parce que si on prend les exemples des pays qui nous entourent, dans ces pays, il est impossible, lorsqu'on y arrive, effectuer des achats dans une monnaie autre que les monnaies que vous rencontrez dans ces pays-là. Vous avez le franc CFA. Si vous avez le franc CFA, vous n'allez pas comme monnaie dans un pays. On n'accepte pas les dollars, même les euros. Et pourtant, l'euro est une monnaie de référence pour le CFA, mais on n'accepte pas les euros. Je prends un exemple même pour les CFA de l'Afrique. Ils sont considérés comme des devises en Afrique de l'Ouest. Tout ça, c'est pour assurer quoi ? C'est pour contrôler les masses monétaires et éviter la circulation illicite de monnaie et contribuer au blanchiment des capitaux. Donc, les réformes sont nécessaires, mais il faut le faire, non pas dans un contexte tout chauffé comme.
Voilà.
Et c'est dans cette période où on parle de formation de gouvernement, il faut mettre la politique dans. La gestion des banques, on répondra à la fin de l'État.
Voilà. Alors, on va réécouter à nouveau, les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Alain Bonnejoie qui nous a appelé d'écouter ça. Alain, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, Alain.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde, bonjour au professeur.
Voilà, on se rend compte que effectivement il faut faire un peu de la politique dans la gestion par exemple de la banque centrale ou encore dans l'ensemble du système financier de la RDC. Est-ce que vous partagez cet avis aujourd'hui si vraiment on veut mener sérieusement des réformes durables?
Bon, moi j'aurais souhaité plutôt poser une question au professeur ou à tous ceux qui soutiennent cette réforme. Si on prend l'article 176 de la Constitution tel que mentionné par Plubin, il y a 5 points qui sont constitués de la mission de cette banque. Je voudrais quand même qu'on nous situe à quel point, sur quel point précisément se fonde cette réforme. Si on prend le point 2, le point 2 parle de la sauvegarde et la stabilité monétaire. La sauvegarde et la stabilité monétaire n'inclut pas seulement la politique monétaire. Il y a plusieurs politiques parce que nous le savons tous, la politique monétaire n'est qu'une politique sectorielle et c'est une politique conjoncturelle. Aujourd'hui, si on doit fonder toute une réforme, la motivation d'une réforme que sur des faits conjoncturels, eh bien, je me pose la question à quoi servirait cette réforme, dès lors que les variables peuvent aussi changer en bien ou en mal par rapport à ce que nous vivons sur le terrain. Alors, si on doit parler de la réforme, il s'agit de quel type de réforme? La réforme sur le plan organisationnel, ou la réforme sur le plan fonctionnel. Parce que si on parle de la réforme sur le plan organisationnel, c'est-à-dire on change le cadre organique. On change de méthode de travail.
Amen.
Mais si on te choisit par exemple un gouverneur, si on te choisit un gouverneur par élection, et à la fin ce gouverneur doit être validé. Dès lors que le point 5, qui parle de l'indépendance de la Banque centrale, n'est pas mise en évidence, et je me pose la question, à quoi servirait ce genre de réforme?
Alors, pour vous aider, en fait, quand nous avons lu ce projet, il s'agit bien entendu d'un projet de loi, il est bien dit projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale. Je crois que c'est juste pour vous fixer.
Si c'est ça, eh bien, ça répond à quel besoin? Parce que si on doit se référer à la valeur de la monnaie aujourd'hui, c'est un peu conjoncturel. Ce n'est pas quelque chose de structurel pour dire que voilà, notre monnaie a des problèmes, on doit changer tout carrément le fonctionnement de la Banque centrale. Et d'ailleurs, si on concerne la valeur de la monnaie, ça ne dépend pas que de la banque centrale. Nous savons tous que la monnaie n'a de la valeur que par rapport à la taille aussi de l'économie. Ça dépend aussi du fonctionnement de la structure économique dans son ensemble. Parce que la politique monétaire dépend essentiellement aussi de la taille de l'extension de la croissance. Aujourd'hui, nous avons un problème tout simplement parce que nous avons vu le cours de matières premières baisser. Et ce qui justifie en partie les dysfonctionnements du système financier congolais. Alors, à supposer que dans le même format de la Banque centrale, nous arrivons à juguler cette situation, on fait quoi? On doit revenir à l'ancien format ou bien on doit continuer avec la réforme? Moi, j'estime de mon point de vue, on doit plutôt nous éclairer sur le bien fondé de cette réforme. Parce que moi, personnellement, j'estime de mon point de vue que la réforme en question ne vient juste que répondre à un petit questionnement. Ce questionnement, c'est par rapport à la prise de décision. Alors, si on doit avoir une gestion collégiale, pourquoi ne pas avoir des organes consultatifs? Ou carrément prendre tous ces gens, les mettre dans le deuxième point qui concerne le troisième point qui concerne la définition et la mise en application de la politique monétaire. On peut le consulter sans pour autant qu'il fasse partie de la banque. Parce que si on doit faire la réforme pour intégrer tous ces gens, et pourtant nous savons que la politique monétaire c'est une politique sensible et qui peut aussi mettre en mal tout le fonctionnement du système financier. Alors si on prend les corps étrangers qui n'ont pas la même visée que l'État, le mettre dans un cadre de prise de décision et avoir un pouvoir de décider en dernier ressort, et bien moi j'estime quelque part c'est dangereux. C'est une manière de privatiser pratiquement la Banque centrale et je ne serai jamais d'accord. Sauf que c'est une autre nouvelle information que je n'ai pas.
Voilà, merci beaucoup Alain. Vous avez proposé peut-être tous vos prédécesseurs qui ont parlé de, disons, qui ont salué cette proposition qui évoque la gestion collégiale, c'est-à-dire élargie à d'autres partenaires, notamment la LAPI, la CB et la FEC. Vous inscrivez en faux par rapport à cette démarche, mais vous proposez plutôt que toutes ces organisations puissent évoluer comme des organes consultatifs. Est-ce que le professeur Makandeja partage cet avis, ainsi que l'ingénieur Valérie? Professeur Makandeja?
Je vous fais quand même insister sur la tête. Les banques centrales fonctionnent suivant des systèmes qui sont mis en œuvre par les pays. Vous savez, vous avez des systèmes de fonctionnement des pays francophones, vous avez des systèmes de fonctionnement des pays francophones, mais le Congo doit se situer quelque part. Hein? C'est bien de se référer à la constitution, mais la constitution peut voir tout. Je sais que le Congo est mal à la constitution. Et la mise en œuvre d'une constitution est conditionnée par ce nombre de députés qui sont appropriés. Lorsqu'on voit, quand on parle de l'indépendance de la banque centrale, l'indépendance ne signifie pas que la banque peut faire ce qu'elle veut sans être contrainte de rectifier, puis qu'on soit quelconque. L'indépendance, c'est dans les avis et les conseils que la Banque centrale peut donner au gouvernement. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le terme d'indépendance. Quand on dit indépendance, ça veut dire qu'on ne va pas tout faire. Et faire n'importe quoi sans nécessairement se référer à ce qui prévoit le cadre juridique de création de cette banque. il y a des missions qui sont bien précisées dans la loi organique, et qu'on trouve, c'est la banque régionale. Hein? Donc, c'est que la banque fait un rapport avec ces missions-là. Alors, la deuxième difficulté que nous avons, c'est qu'on veut cette réforme au moment où la situation conjoncturelle fait que nous n'avons pas suffisamment de réserves en devises. D'ailleurs, une des missions de la banque, c'est d'assurer, donc, ça garde toutes ces réserves avant les devises. Alors, suite à l'effondrement des prix de matières premières sur le plan international, il y a eu une diminution de ces réserves. Mais cela n'est pas de la faute de la Banque centrale du Congo, c'est de la faute de l'économie l'économie nationale dans son ensemble. Mais si on n'est pas capable de diversifier notre économie, on ne va pas rien. C'est cette responsabilité, c'est la chute de la valeur de la monnaie avec cette émission. C'est des choses qu'il faut séparer et ne pas confondre. Les choses sont tellement complexes qu'il ne faut pas qu'on se limite à des racontars. Il faut partir des missions et des rôles que chaque pays confie à son institut de mission pour apprécier au regard des résultats ce qu'il y a de faire pour améliorer compte tenu de l'évolution. Vous avez l'évolution technologique, vous avez des évolutions dans le comportement des acteurs et associer ces acteurs à la surveillance et au contrôle de l'utilisation de ces moyens qui sont mis à la disposition de...
Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, professeur, on ne saura pas aller plus loin à ce niveau du débat. Nous prenons encore rendez-vous après que le Sénat ait levé l'option de ce projet d'ici à mercredi. On y reviendra pour débattre à nouveau sur cette question. On dit merci à l'ingénieur Bathier, qui nous a rejoint depuis Kisangani pour intervenir dans cette émission. Malheureusement, le temps nous est parti fait défaut. Ingénieur Valérie, merci d'avoir accepté également d'échanger de manière un peu citoyenne avec le professeur Bakandeja, qui était notre invité principal et qui est intervenu en ligne depuis Bamako, au Mali. Voilà, nous ne pouvons pas nous quitter sans pour autant dire merci à Mimi Kindou qui a assuré la mise en onde de ces programmes et aussi Julie Pézabongonda qui était au standard et à la réalisation de cette émission. J.R. Lungembo a eu le plaisir de coordonner et présenter ce programme sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. On se retrouve demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.